Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30 avec le sourire de Julien Courbet pour nous annoncer 2 heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et l'info avec Amandine tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le variant Omicron et le conseil scientifique qui se veut pour l'instant rassurant, le masque et la troisième dose disent-ils suffisent. Dans ce journal également, le nouveau protocole sanitaire à l'école alors que l'épidémie flambe chez les 6-10 ans. Et puis un 7e ballon d'or pour Messi, on saura ça définitivement ce soir.
Et juste après le journal, on échangera, on décryptera comme tous les jours le Covid. Que pensez-vous de ce variant Omicron? C'est le O de l'alphabet grec, hein, Omicron. Et on posera la question au professeur Antoine Flao. Et puis à 12h50, c'est Jean-Pierre Pernaut qui sera l'invité de RTL Midi. Il est déjà dans notre studio une semaine après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Il répondra également aux auditeurs à partir de 13h.
Notre question du jour sur RTL.fr, le variant Omicron vous inquiète-t-il? Eh bien, vous êtes partagé, oui, à 50%, non, à 44%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour, Louis.
Bonjour, Amandine.
Et attention encore, bien sûr, en montagne.
Oui, exactement. Hein, en montagne, où on a encore du froid et encore quelques averses de neige, notamment sur les Pyrénées. Il y en aura également sur les Alpes. Mais surtout, comme les températures resteront négatives, il y aura toujours du verglas ou encore cette couche de neige qui pourrait être dangereuse sur les routes. Donc, prudence en montagne. En pleine, en revanche, ça ira beaucoup mieux cet après-midi, notamment dans la moitié ouest, au nord de la Loire. On retrouvera de belles éclaircies, un temps un peu plus sec, quelques nuages quand même dans l'extrême nord-est, puis du soleil mais du vent près de la Méditerranée, sauf en Corse, où là encore, on aura des averses sous forme de pluie ou de neige en montagne. Le tout avec des températures qui resteront très fraîches, hein, 1 à 4 degrés seulement du massif central jusqu'au nord-est, entre 5 et 8, 9 degrés, grand maximum ailleurs. Il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera les 10 degrés.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Objectivement, l'émergence de ce virus n'est pas une bonne nouvelle. Devant autant d'incertitudes, il est nécessaire d'être en alerte pour bien comprendre et bien analyser ce qui est en train de se passer.
Ces mots, ce sont ceux tout à l'heure du Conseil scientifique. Première conférence de presse depuis des mois. Mais pour autant, pas question de s'affoler face à la menace du variant Omicron et à tout ce qui a pu être dit ces derniers jours. Les experts français ont voulu calmer le jeu, temporiser. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Le premier message du Conseil scientifique, c'est de dire attention, on ne peut pas comparer ce qui se passe en Afrique du Sud et ce qui se passe ici en Europe.
Oui, situation très différente. Lorsque ce variant est apparu en Afrique du Sud pour la première fois, c'était le 8 novembre dernier. Le pays était en fin de vague épidémique avec une faible circulation du variant Delta, une population peu vaccinée, 28%, et majoritairement avec de l'AstraZeneca et du Janssen Unidose, deux vaccins que l'on sait un peu moins efficaces que Pfizer et Moderna. En Europe, les couvertures vaccinales sont très élevées, on est à 75% en France, et le Delta circule très fort. Il n'est donc pas du tout certain qu'Omicron parvienne à s'imposer face à un variant Delta qui prend toute la place. Pour l'instant, aucun cas n'a été confirmé en France. Des analyses sont en cours concernant 8 cas qualifiés de probables, des personnes testées positives au Covid et qui revenaient d'Afrique du Sud. Les résultats sont une question d'heure.
Et pour le moment, Odile, le Conseil scientifique ne recommande pas de nouvelles mesures.
Non, la stratégie ne change pas. D'abord parce qu'il est trop tôt. On n'a pas assez de données scientifiques. Rien ne prouve pour l'instant que ce variant soit plus contagieux, plus virulent ou plus résistant au vaccin. Le Conseil scientifique insiste sur l'importance des gestes barrières, du port du masque notamment, car on n'a aucune raison de penser que ce nouveau variant se transmette autrement que les autres. Il insiste aussi sur cette campagne de rappel, a fortiori pour les plus de 50 ans et les plus fragiles. Tout cela, dit-il, va être utile et contre Delta, qui reste notre principale préoccupation, et contre Omicron.
Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Alors cet appel au calme, il tranche avec les mesures annoncées ces derniers jours. Depuis vendredi et l'apparition de ce nouveau variant, les États ferment les uns après les autres leurs frontières. Dernière en date, c'est l'Australie, Brice Dugénie.
Absolument, le Premier ministre australien Scott Morrison avait pourtant décidé de rouvrir dans 2 jours, le 1er décembre, aux étudiants et aux travailleurs qualifiés. Mais face à l'incertitude, l'Australie se referme jusqu'à nouvel ordre. Les Philippines voulaient également rouvrir aux touristes vaccinés pour relancer une économie moribonde. Mais ce projet est suspendu. Enfin, le Japon avait eu le temps d'assouplir depuis 3 semaines les règles d'entrée pour les étrangers. Eh bien, c'est terminé. Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé ce matin que personne ne pourrait rentrer sur le territoire à partir de demain. L'Union européenne, on l'a vu, a interdit tous les vols en provenance d'Afrique australe, mais des premiers cas ont quand même été constatés en Europe, en Autriche, au Portugal, à chaque fois des personnes de retour d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui prévoit de passer d'ici la fin de la semaine la barre des 10 000 nouveaux cas quotidiens atteint de ce nouveau variant Omicron.
Brice Dugénier du service étranger de RTL, et tout ça, bien sûr, ça inquiète les professionnels du tourisme qui, il y a encore 10 jours à peine, saluaient la reprise de leur activité. Richard Venopoulos est le président de Tourcom, qui regroupe près de 1200 agences de voyage en France.
On est plutôt dans l'errance actuellement parce qu'on essaie de savoir ce qui va se passer, on essaie de rassurer, de conseiller nos clients, mais on ne sait pas. Tant qu'on reste avec le pass sanitaire et les masques, c'est pas trop gênant. Les gens le feront, n'hésiteront pas à le présenter, ça ne pose aucun problème. Là où ça devient un petit peu ennuyeux, c'est que l'on dit par rapport à ce nouveau variant que même avec les 3 vaccinations, il faudra prendre 7 jours d'isolement. Donc on attend les quelques jours, les fameux 10 jours que nous demande le gouvernement pour savoir exactement si le virus va être virulent ou pas, et auquel cas, on verra. Soit les clients pourront partir normalement, soit les clients seront remboursés.
Richard Venopoulos, le président de Tourcom, au micro RTL de Pierre Herbulot.
Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau protocole entre en vigueur aujourd'hui à l'école.
Fini les fermetures de classe systématiques dès le premier cas. Les élèves testés négatifs pourront rester en cours. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Alors certains s'interrogent, se demandent si tout ça n'est pas un peu risqué. Qui plus est quand on voit le taux d'incidence chez les 6-10 ans multiplié par 6 en un mois.
Pour être précis, c'est la fin de la fermeture systématique pendant 7 jours. Désormais, la classe ferme le temps que les élèves fassent un test et présentent leurs résultats. Ça peut prendre un jour ou deux. Vous l'avez dit, ils peuvent revenir en classe uniquement si le test est négatif. Alors, cette nouvelle formule doit permettre, sur le papier, un meilleur dépistage. Auparavant, quand la classe fermait 7 jours, il était conseillé aux parents de faire tester leur enfant, mais il n'y avait pas d'obligation. Ils les gardaient une semaine à la maison, on ne leur demandait rien. Au retour, on a pu passer à côté de cas asymptomatiques. Désormais, on teste pour continuer à aller à l'école. Ça peut révéler des cas dans des familles et permettre de briser des chaînes de contamination. Et pour que ça marche, il faut de la réactivité et il en va de la responsabilité de tous. Évidemment, si un enfant est négatif à l'instant T, il va à l'école. Il peut être positif le surlendemain. Ça, c'est la limite des tests. Ça vaut d'ailleurs pour tout le monde. Ça nécessite donc d'être très respectueux du port du masque, des gestes barrières à l'école et même dans certains cas au sein de la famille, surveiller la survenue éventuelle de symptômes, prendre la température. Un test est préconisé pour les enfants 7 jours après le dernier contact avec le camarade malade.
Marie Guerrier, spécialiste des questions d'éducation ici à RTL. Et puis j'ajoute qu'Emmanuel Macron lui indique avoir reçu ce week-end sa dose de rappel, la fameuse 3e dose. Le président de la République qui précise via les réseaux sociaux qu'il s'est en même temps fait vacciner contre la grippe. Dans l'actualité également, les suites de l'affaire Hulot et cette première réaction ce matin sur RTL de Yannick Jadot. Le candidat écologiste à la présidentielle a notamment expliqué pourquoi il avait décidé de se passer des services de Mathieu Orphelin, qui était jusqu'ici le porte-parole de sa campagne.
À partir du moment où Mathieu Orphelin était un proche de Nicolas Hulot, qu'il y a eu des témoignages qui remettent en cause l'entourage de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot. Mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi, je veux qu'on entende la parole des femmes, je veux qu'enfin, dans ce pays, on entende la parole des femmes et qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa propre parole, il ne peut plus être porteur.
Vous saviez-vous qu'il y avait des accusations contre Nicolas Hulot ?
Non.
Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, il était ce matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL.
Aux États-Unis à présent, le début aujourd'hui du procès de l'ex-compagne de Jeffrey Epstein.
2 ans après le suicide en prison du milliardaire, Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir joué les rabatteuses, d'avoir organisé ce système, Lionel Gendron.
Oui, à travers le procès de la prisonnière 028-79-509, c'est tout le système Epstein qui sera étudié. Il y aura 4 plaignantes anonymes, mineures au moment des faits. Ghislaine Maxwell a été arrêtée en juillet 2020 dans une petite ville près de Boston. Était-elle le cerveau de ce trafic d'adolescentes? Aurait-elle tout fait pour plaire à Epstein qu'elle voulait épouser? C'est en tout cas ce que pense une ancienne amie qui a pris ses distances, Christina Oxenberg, une aristocrate, cousine éloignée du prince Andrew, jointe hier.
Elle a essayé de me faire croire que c'était sa petite amie. Je sais que c'était pas le cas. Ce n'était pas sa petite amie, c'était une employée et ça l'embêtait parce que pour elle, le statut est important. Les femmes normales, quand elles ont un homme, elles ne lui offrent pas au hasard d'autres femmes pour qu'il ait des relations sexuelles.
Ghislaine Maxwell va-t-elle donner des noms? Le prince Andrew est notamment soupçonné d'avoir profité du système Epstein. L'accusée n'est pas censée s'exprimer pendant le procès, mais elle peut surprendre.
Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Et puis la planète football, elle aura ce soir les yeux tournés vers le théâtre du Châtelet à Paris. C'est là que sera décerné le Ballon d'Or. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Les journaux espagnols annoncent Messi une fois encore.
Oui, le nom de Messi se détache dans ce duel avec l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. L'Argentin a reçu sa première récompense en 2009. 12 ans plus tard, il est toujours là. Alors quand on remporte déjà 6 ballons d'or, on est toujours parmi les favoris. Mais c'est une curieuse année pour lui entre le Barça et le Paris Saint-Germain, sans titre majeur en club, hormis une Coupe du Roi, et avec 3 premiers mois dans la capitale en dessous de ses standards. Mais il a remporté la Copa América avec l'Argentine, le tournoi continental, l'équivalent de l'Euro, son premier trophée en sélection. Il a guidé son équipe, meilleur buteur, meilleur passeur. Et Messi, au nom, au talent qui s'exporte mondialement, qui traverse les frontières plus facilement, eh bien, récolte des voix sur tous les continents quand Lewandowski, malgré la marque internationale Bayern Munich, peine à rayonner autant.
Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL et verdict donc dans la soirée aux alentours sans doute de 23h.
Vous le savez, Jean-Pierre Pernaut sera l'invité exceptionnel de RTL tout à l'heure. Il pourra dialoguer avec les auditeurs. On parlera avec lui à la fin de ce journal. Mais tout de suite, on va parler de Omicron. Et c'est vrai que l'OMS estime que le variant Omicron représente un risque très élevé. Donc on est très inquiet. Noël approche. On va être avec Antoine Flahault dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
La réponse à la cinquième vague liée au variant Delta et au variant Omicron, c'est le même combat, c'est les mêmes outils, et en particulier qui reposent sur cette vaccination de rappel. Je vous rappelle qu'on est à 7 millions de rappels et qu'il faut qu'on accélère encore cette stratégie. Et que la réponse, elle n'est pas seulement que française, elle doit être fondamentalement européenne.
Pas d'inquiétude, pas d'affolement, voilà les mots ce matin du professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui appelle au calme après l'apparition du variant Omicron. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de son côté d'un risque très élevé. Alors faut-il s'inquiéter? Va-t-on pouvoir passer des fêtes de Noël en toute tranquillité? On en parle avec le professeur Antoine Flahault. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes, je le rappelle, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Vous venez d'entendre le professeur Delfrécy et d'ailleurs l'ensemble du conseil scientifique, hein, on le disait, qui sont plutôt confiants en disant que masque et troisième dose, a priori, en tout cas pour l'instant, suffisent face à ce variant Omicron. Vous êtes aussi confiant, vous ?
Alors, on ne sait pas encore grand-chose sur ce variant Omicron, hein. Il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'on sait que des variants émergent régulièrement dès qu'il y a des foyers importants, mal contrôlés dans le monde. Donc, ce n'est pas la première fois qu'un variant émerge, et puis ce n'est probablement pas la dernière. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec ce virus, contre ce virus, on va dire, et c'est un coronavirus, c'est le même quelque part. C'est un variant de ce coronavirus, mais il se transmet de la même façon, il a la même symptomatologie. Voilà ce qu'on en sait aujourd'hui.
Quand vous voyez, pardonnez-moi, tous les États se barricader les uns après les autres, vous vous dites quoi? On va trop vite ou au contraire, on a pris l'expérience de ce qui a pu se passer depuis 18 mois, 2 ans bientôt?
Oui, on peut comprendre que les États réagissent assez rapidement, et c'est plutôt bien que les États réagissent rapidement, parce que l'expérience passée, en particulier celle du variant Delta, n'avait pas été très brillante concernant la réaction des États. On a plutôt été, au contraire, notamment la Grande-Bretagne avait laissé ouvertes ses portes avec l'Inde, car ce variant venait d'une émergence en Inde en avril dernier, et elle n'avait pas refermé ses frontières suffisamment tôt. Donc quelque part, elle ne veut pas se voir reprocher à nouveau cela. Aucun gouvernement, je pense, n'a envie de voir pénétrer trop rapidement ce variant, si jamais il s'avère qu'il est dangereux ou qu'il est beaucoup plus transmissible, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore du tout avéré.
Il y a deux paramètres qui sont importants pour un variant, c'est est-ce qu'il est plus virulent, est-ce qu'il est plus contagieux? Quand est-ce qu'on va avoir les réponses à ces deux questions et comment aura-t-on les réponses?
Alors, je pense que celui que vous appelez le deuxième paramètre, est-ce qu'il est plus contagieux, est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut que rapidement on sache s'il est plus transmissible. Vous savez, il y a eu un variant qui s'appelait le variant Delta Plus, qui a émergé cet été au Royaume-Uni. Eh bien, il s'est avéré que ce variant avait 10% de transmissibilité en plus que le variant Delta. Eh bien, ce n'était pas suffisant pour qu'il s'impose dans les compétitions internationales, si je puis donner cette expression, notamment il ne s'est pas imposé au Royaume-Uni et puis il n'est pas arrivé vraiment en Europe. Donc si on avait affaire à un variant qui n'était pas beaucoup plus transmissible, pareil, il ne s'imposerait probablement pas face au variant Delta. Si en revanche, il est 50% plus transmissible, le variant Delta lui-même était 50% plus transmissible que le Alpha, alors peut-être que cet Omicron viendrait à s'imposer.
Mais quand est-ce qu'on va avoir et comment ?
Alors on met du temps, en fait, entre le moment où on a eu ces informations et le moment où ont émergé les précédents variants, il s'est déroulé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il peut encore demeurer pendant quelques semaines sans qu'on ait cette information précise sur la transmissibilité. On commence à en avoir. Pour l'instant, elles sont assez farfelues parce qu'on n'a pas assez de données pour avoir des estimations précises sur la transmissibilité. Mais tant qu'on n'a pas une information claire sur la transmissibilité, et on l'aura quand on verra la rapidité avec laquelle ce variant s'impose dans un pays donné. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui est un des pays qui, au monde, séquence beaucoup les nouveaux virus identifiés, on va pouvoir peut-être, grâce à l'Afrique du Sud, avoir assez rapidement, peut-être dans les semaines qui vont venir, une information sur le degré de transmissibilité.
Justement,
et ça, ce sera très important.
L'Afrique du Sud, vous en parliez, certains médecins sur place disent, a priori, que d'après ce qu'ils voient, en tout cas, et certes, c'est sans doute pas une échelle suffisante pour en tirer les leçons, mais ce variant est plus contagieux, mais peut-être moins dangereux. Est-ce que ça peut être rassurant pour nous de savoir qu'un variant est plus contagieux mais moins dangereux, c'est-à-dire que les effets derrière donnent des formes moins graves?
Bon, alors là aussi, c'est vraiment trop préliminaire pour statuer sur la dangerosité de ce variant. Ce qui est vrai, c'est qu'en soi, un variant émerge et s'impose parce qu'il est plus transmissible. Donc, il peut ne pas porter toutes les mauvaises nouvelles avec lui. Il peut tout à fait être moins virulent. C'est ce qui se passe parfois avec des nouveaux variants. Ils ne sont pas du tout plus virulents. Ils peuvent être moins virulents. Après, s'il est beaucoup plus transmissible, même s'il est moins virulent, mathématiquement, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais mathématiquement, ça peut résulter en un plus grand nombre de décès in fine, parce que finalement le nombre va après l'emporter sur la moindre virulence. Donc il va falloir vraiment pouvoir évaluer cette moindre virulence si jamais elle existe.
Idéalement, il faudrait que le virus soit plus contagieux et moins violent, le pas sur le Delta par exemple.
Oui, et il y a un troisième paramètre qu'on n'a pas évoqué, qui est l'échappement vaccinal. Il ne faudrait pas qu'il échappe trop au vaccin. Quand je dis trop...
Mais ça, on le saura quand également?
D'ici une dizaine de jours, disent les labos.
Oui, les laboratoires vont avoir des données qu'on pourrait dire de laboratoire, c'est-à-dire virologique, en fonction des essais sur les anticorps, mais il faudra quand même se confronter tout cela à la réalité. C'est-à-dire qu'il est possible, par exemple, que on a vu ça pour le variant Delta, qu'il y a un certain échappement vaccinal qui se voit sur les anticorps, mais qui n'affecte que la transmissibilité. C'est embêtant, mais c'est pas pareil que d'affecter les formes graves. Parce que les vaccins, par exemple, aujourd'hui, restent très efficaces, et pratiquement aussi efficaces que lors des essais cliniques, contre les formes graves du variant Delta. Ce qui est 80 à 90%, c'est très très intéressant de savoir cela. Si c'était le cas pour le variant sud-africain, ce serait aussi une très bonne nouvelle. Et ça, on peut mettre un peu de temps avant de le savoir.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Flao. Et je retiens effectivement que pour le moment, on ne sait pas encore tout sur ce variant. Effectivement, et notamment sur sa transmissibilité, sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Et pour qu'il s'impose, il faut qu'il soit plus contagieux que le variant qui est actuellement sur le sol européen. Merci à vous. Jean-Pierre Pernaut est avec nous. Il va pouvoir intervenir dans une seconde. Bonjour Jean-Pierre. Merci vraiment d'être avec nous. Et vous allez pouvoir également dialoguer, discuter avec les auditeurs qui ont beaucoup d'affection pour vous et qui veulent, qui veulent savoir comment vous allez tout simplement. A tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Eh oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter.
Et c'était il y a une semaine tout juste, Jean-Pierre Pernaut annonçait sur les réseaux sociaux qu'il luttait contre un cancer du poumon. Il est aujourd'hui l'invité d'RTL Midi. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là, ici en studio.
Comment allez-vous d'abord ?
Mais je suis en pleine forme, enfin, j'exagère quand je dis ça, parce qu'il faut garder le moral. C'est vrai que le cancer, c'est pas facile. Ce sont des examens depuis le mois de mai, des examens très réguliers dans un hôpital parisien qui est formidable, l'hôpital de l'APHP, où les gens se donnent à fond, et il faut leur rendre vraiment hommage, parce que j'ai suis soigné depuis le mois de mai à l'hôpital Pompidou. Une opération en juillet, une radiothérapie il y a quelques semaines, et une fuite, c'est vrai, j'en parlais dans un document qui sort sur C8 le 9 décembre, je crois, la semaine prochaine, et il y a eu une petite fuite sur ce document. J'avais décidé d'en parler parce que avoir un cancer, il y a tellement de gens qui en ont, pourquoi en parler ? Mais j'en parle parce que ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin m'engueulait en me disant « Jean-Pierre, arrête de fumer ». Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs, « Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est pas raison ». Mais non. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer. Et je le dis dans ma petite vidéo, j'ai été con, tout simplement. Donc si ça peut inciter deux personnes à arrêter de fumer, je suis content d'en parler.
Mais justement, quand on est fumeur, on dit souvent qu'il faut un déclic. On le sait. Enfin, tous les fumeurs savent très bien qu'il ne faut pas fumer, que c'est dangereux, etc. Ouais. Qu'est-ce qui ferait que vous, là...
Plus on nous le dit, plus on a envie de fumer, en fait, par esprit de contradiction.
Mais justement, alors qu'est-ce qui fait que là, en le disant à tous les auditeurs, peut-être que vous allez créer un petit
peut-être
truc.
Peut-être parce que les gens
parce
me connaissent,
que c'est vous
parce que c'est moi, parce que j'ai déjà eu un cancer de la prostate et j'en ai parlé parce que les mecs font pas attention assez à leur prostate. Il y a encore 7000 morts par an, c'est idiot, alors qu'il suffit de faire de la prévention. Ce sont surtout des jeunes d'ailleurs qui meurent encore de cancer de la prostate. Donc il faut faire de la prévention, aller voir un urologue de temps en temps. Voilà, on parle du cancer du sein maintenant, ça a amélioré la prévention. Il faut parler du cancer de la prostate, j'en ai parlé. Même chose pour le cancer du sein, pour le cancer du poumon par exemple. Le cancer du poumon, bien sûr, ça vient du tabac.
Vous étiez un gros fumeur ?
Oui.
Et c'est-à-dire ?
Je sais pas, je fumais entre 1 et 2 paquets par jour depuis 50 ans.
Oui, des blondes.
Des blondes, oui.
Et lorsque a été diagnostiqué ce cancer du poumon, l'opération a pu avoir lieu.
Oui, on a décidé de m'opérer à l'hôpital Pompidou. J'ai été pris en main par le service de chirurgie thoracique qui a décidé qu'on pouvait m'opérer parce que la tumeur était dans une zone qui était déjà abîmée par le tabac. Donc on pouvait enlever un lobe pulmonaire sans m'empêcher de respirer derrière. Au contraire, ça laissait de la place aux deux autres. Et donc j'ai été opéré avec bonheur le 5 juillet. Je suis resté 3 semaines à l'hôpital, j'ai été remarquablement soigné. J'ai passé un été ensuite dans mon canapé à travailler sur mon magazine de presse écrite, ma nouvelle occupation de l'année qui s'appelle Au cœur des régions. Et puis voilà, j'ai bossé de mon canapé, ma femme à côté de moi qui me remonte les morales. Et c'est elle qui m'a appris en fait à ne pas avoir peur du mot cancer. Quand on vous dit vous avez un cancer, oh, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Nathalie m'a appris qu'il ne fallait pas que le ciel nous tombe sur la tête. C'est une maladie. Il y a des gens qui meurent du Covid, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent du cancer, mais on en meurt de moins en moins. Donc autant essayer de garder la pêche, et si les gens qui nous écoutent ont un cancer, ben, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est foutu. Donc il faut se bagarrer, comme on dit, il faut suivre ce que disent les médecins, et eux se battent pour que la maladie soit de mieux en mieux soignée.
Et quand on vous voit, on se dit que vous avez l'air de bien aller, vraiment.
Mais je suis à peu près en pleine forme. Bon, je rigole. Un journaliste m'a demandé la semaine dernière quels étaient mes projets. Je lui ai dit, je vais faire Danse avec les Stars l'année prochaine. Non, j'exagère quand même.
Est-ce qu'il y a un traitement en ce moment qui poursuit l'opération que vous avez eue ?
Oui, parce que j'ai eu une tumeur d'un côté, on me l'a enlevée en chirurgie, et puis de l'autre, on ne peut pas enlever tous les poumons, donc ça, ce serait trop facile. Mais bon, après, on ne respirerait plus. Et j'ai une deuxième tumeur de l'autre côté qui a été traitée par une radiothérapie, des nouvelles radiothérapies massives et très courtes qui sont en 4 ou 5 séances. Et puis, on saura dans 4 ou 5 semaines si la radiothérapie a fait griller la tumeur ou pas.
La semaine dernière, il y avait à votre place le professeur Kayat qui était venu justement pour nous parler notamment du cancer des poumons. Et il nous disait, ça fait partie de ces cancers qui, il y a quelques années, on disait aux patients, non, vous en avez pour 6 mois, 7 mois, et puis c'est fini. Aujourd'hui, il dit, il y a des progrès incroyables.
Énorme. Alors oui, moi je crois ce que me disent les médecins. Mon frère était médecin, ma fille aînée est médecin, chirurgien, donc je fais confiance à la médecine. Quand on dit qu'on se bagarre contre le cancer, c'est pas nous qui nous bagarrons contre le cancer. Ce sont les médecins qui se bagarrent, qui font de la recherche, qui améliore la recherche, les infirmières. J'ai vu à quel point c'était important le regard des infirmières ou du personnel de salle. Les femmes de ménage à l'hôpital sont aussi importantes que le chirurgien parce qu'elles sont là avec un sourire. Elles vous remontent le moral. Elles vous disent, vous savez, gardez la pêche, monsieur, parce que la dame à côté, elle voit moins bien que vous. Alors, bon, et on essaie de garder la pêche. Et puis Nathalie m'a toujours appris qu'il fallait garder la pêche et regarder la maladie en face pour mieux la combattre.
Mais ce qui est frappant, vous voyant arriver, moi je ne vous avais pas vu depuis... quelque temps, c'est qu'il n'y a aucun stigmate que vous portez quelqu'un qui a le cancer. C'est-à-dire que vous n'avez pas maigri, vous n'avez pas perdu vos cheveux, vous paraissez bonne mine, c'est la première chose que je vous ai dit.
On n'a pas encore entamé de chimiothérapie ou d'immunothérapie qui viendra peut-être derrière, j'en sais rien.
Là, il n'y a pas eu d'immunothérapie, alors non, que le professeur Kayat, oui, justement, nous disait que c'était c'est pointe aujourd'hui et l'avenir.
Ouais. Non, mais il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Mmh. Ce qui est gênant, c'est le regard des autres. Mmh. Vous en parliez. Oui. On vous dit, vous avez un cancer. Déjà, ce n'est pas facile. Moi, grâce à Nathalie qui a eu une leucémie foudroyante il y a 30 ans, et qui m'a toujours dit, il faut regarder la maladie en face, il faut en parler, il faut arrêter de parler d'une longue maladie. Le cancer, les cancers, ce sont des maladies. Il faut les regarder en face pour mieux les combattre. Et puis voilà, donc il faut tout regarder en face.
Ben vous allez rester avec nous, parce que les auditeurs ont envie d'échanger avec vous. Je vois Louis Baudin, que vous connaissez, qui est là également. Ils vont pouvoir vous poser des questions ou simplement témoigner.
Louis Baudin, il a des stigmates. Hein. Il n'a plus de cheveux déjà. mais il n'a pas de traitement.
Vous êtes en forme.
On va marquer une pause et appelez-nous vraiment, parce que Jean-Pierre va pouvoir être avec vous pendant une grosse demi-heure et peut-être davantage, on ne sait pas. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous allons être avec Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Qui va pouvoir interroger Jean-Pierre Pernaut. Peut-être dans une seconde, vous avez peut-être une première observation à faire.
Ah oui, juste dire que je vais me permettre d'être le porte-parole de millions de personnes et de dire simplement Jean-Pierre, merci.
Eh bien, on est ensemble jusqu'à 12h, jusqu'à 13h30, 13h45. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, l'inquiétude du monde entier face au variant Omicron. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, évoque ce matin un risque élevé ici en France. Les différents membres du conseil scientifique appellent toutefois au calme. Pas besoin de paniquer hein, pour l'instant, disent-ils. Le masque et la troisième dose suffisent. Dans l'actualité également, la crise aux Antilles. Et Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est sur place. Il doit rencontrer dans les prochaines heures l'intersyndical en Guadeloupe. Et puis du foot, le Ballon d'Or, qui sera le grand vainqueur. Messi, une septième fois ou pas, on saura ça. Ce soir, cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce sera dès 20h30. Notre météo avec vous, Louis. Vous avez gardé votre écharpe, il fait bien, bien froid.
Oui, exactement. Les températures resteront largement hivernales cet après-midi. Si on commence par elles, on sera entre 1 et 4 degrés seulement du Massif central aux frontières de l'Est. Ça ne dégèlera pas sur tous les reliefs dès 500 ou 600 mètres. Donc la neige restera là, hein, prudence. Et puis dans les autres régions, on sera entre 5 et 8, 9 degrés seulement. Il n'y a que près de la Méditerranée où on atteindra parfois les 10 degrés. Tout ça avec un ciel qui devrait quand même s'éclaircir dans la plupart des régions. Sauf au sud de la Garonne, ça restera très nuageux avec de la pluie ou de la neige dans les Pyrénées où il y aura toujours un fort risque d'avalanche. Quelques flocons également sur les Alpes ou encore les Vosges, et puis beaucoup de vent près de la Méditerranée jusqu'à 80 km/h.
Et pour demain, pour la suite, pas mieux ? Et
c'est pas beaucoup mieux. Hein. Demain, dans la moitié sud, on retrouvera un peu plus de soleil si les brouillards veulent bien se lever, toujours du vent près de la Méditerranée. Mais dans la moitié nord, ça restera très nuageux, avec quelques pluies possibles au nord de la Seine, voire quelques flocons jusqu'en pleine Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté. Puis les températures auront du mal à grimper, puisque l'après-midi, on restera sous les 10 degrés, ça ira un petit peu mieux quand même. Et puis pour la suite, ça reste très frais. D'ailleurs, les épisodes de pluie et de neige vont se succéder au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Parfois de la neige à très basse altitude.
Nous voilà prévenus. Merci Louis.
Merci. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Merci Amandine, merci Louis, merci à Ludovic Van de Kerkhove qui était à la rédaction en chef aujourd'hui. On est avec Jean-Pierre Pernaut, il est 13h03.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Thierry est donc avec nous. Thierry qui habite la Charente et qui souhaitait dialoguer avec Jean-Pierre Pernaut.
Bonjour Pascal et bonjour surtout à Jean-Pierre, c'est vraiment un honneur d'échanger avec lui.
Bonjour Thierry. Alors,
comme je disais en préambule, c'est vrai que Jean-Pierre, je me permets au nom de sûrement de millions de personnes de vous dire merci. Merci parce que vous utilisez votre notoriété pour mettre en avant cette maladie qui est souvent un sujet tabou et dont vous ne parlez pas de vous. Vous utilisez votre nom et votre autorité pour dire il y a des dizaines de... Vous me dites si je me trompe, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti dans vos différents propos.
Mais c'est ça que j'essaie de faire.
Il y a des dizaines de milliers de personnes qui en souffrent. On ne parle pas d'eux. Ils sont dans les petites régions de France, comme vous aimez bien en parler. Et ils luttent tous les jours contre la maladie. Et aussi, pour l'avoir connue, cette maladie, directement et indirectement, on ne parle pas assez aussi de la famille, des proches, qui souffrent énormément, qui ont une autre lutte à faire, pas celle de la maladie, mais de la vie qui va être perturbée, qui va être déstabilisée. Et puis c'est, on a toujours l'impression que c'est un coup.